danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos ciboulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Sophie Hein.
Le titre du débat aujourd'hui, c'est « Comment ça, européen ?» Donc l'idée, c'est de parler de l'Europe, de l'identité européenne, mais pas seulement, de l'Europe. Donc je suppose que, bon, si vous êtes venu, si vous êtes intéressé, donc vous devez déjà avoir certaines choses dans la tête sur la question. On parle beaucoup en ce moment en France de la question de l'identité nationale, c'est partout dans les journaux. On n'en parle pas qu'en France d'ailleurs, c'est en Belgique d'où je viens, c'est un débat qui est très présent aussi. En Angleterre d'une certaine manière également, même si c'est avec des modalités différentes. Mais c'est intéressant d'essayer de voir un peu au-delà des frontières nationales, et en particulier ici en France, où beaucoup d'entre vous ont dû suivre le débat sur la fameuse Constitution européenne, et ce qui a suivi le rejet, l'absence de suivi par les politiques du rejet en 2005, et donc vous avez certainement déjà des choses dans la tête. Alors, mon but ici, c'est de faire une intervention donc, en quatre temps, avec des conclusions. Donc je vais essayer d'être assez claire et de m'en tenir à un niveau tout de même assez généraliste. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que l'Union européenne actuelle pose problème? Ah oui, je le dis tout de suite, je ne sais pas, j'ai publié un livre, voilà, il est juste là. qui est basée sur une analyse des débats autour de la Constitution européenne, en France en particulier, mais qui, pour les gens intéressés et qui voudraient étudier ou en tout cas lire un peu plus en profondeur sur les arguments qu'on peut avoir aujourd'hui quand on se dit progressiste ou de gauche sur l'Europe, ça peut être intéressant parce que ça va bien au-delà de la question de la Constitution. Ça traite de la question de l'Europe en général. Quelle position on peut avoir aujourd'hui sur l'Europe, en particulier quand on se dit progressiste. Donc mon premier point sera très clairement une critique de l'Europe actuelle et de ce qui plus spécifiquement s'appelle l'Union européenne. Ensuite, j'explorerai un peu la question de, une fois qu'on a critiqué cette réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on décide de se recentrer sur l'État-nation, dans ses différentes dimensions, ou est-ce qu'on promeut une autre Europe ? Et j'essaierai d'étudier assez rapidement, de voir un petit peu les arguments des deux côtés. Et puis dans un troisième temps, parce que c'est une question qui me semble distincte, j'aborderai le point de l'identité européenne. Donc, est-ce qu'il faut une identité européenne ? Et si oui, de quel type ? Et puis enfin, je me concentrerai sur la question, mais très très brièvement, de la stratégie de changement pour essayer donc d'aller vers le but promu. Et puis je résumerai en quelques points les conclusions. Alors tout d'abord, une critique de l'Union européenne existante, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à critiquer. Le premier point, c'est évidemment que l'Union européenne actuelle n'est absolument, absolument pas démocratique. Bon, alors tout d'abord, les traités qui sont ce qui organise vraiment l'Europe actuelle, sont décidés de manière complètement intergouvernementale, de manière très très opaque, donc entre élites. Les élus et les citoyens sont tout à fait laissés de côté. Quand ils sont impliqués, comme lors du référendum par exemple sur la Constitution européenne, très souvent on ne suit pas le résultat, donc c'est un référendum, mais la réponse est déjà décidé d'avance, et si la réponse ne va pas dans le sens qui était prévu à l'avance, eh bien on ne suit pas, et on refait un nouveau traité, c'est ce qui s'est passé après le rejet de la Constitution. Donc ça, c'est dans l'élaboration des traités. Les traités sont très importants, parce que c'est pas comme dans d'autres domaines, les traités européens décident vraiment de tout ce qui se fait au niveau européen. C'est ce qu'on appelle le droit primaire, donc vraiment le droit fondamental. Et ça peut paraître un peu superficiel de s'intéresser comme ça à des traités, mais pour ceux qui se sont un peu penchés sur cette question, ils se rendront compte qu'aujourd'hui, pour être très clair, l'essentiel des législations au niveau national, donc 70 ou 80% dans la plupart des pays, sont en fait des dérivés de choses décidées au niveau européen, par les gouvernements, mais aussi par la Commission, par le Parlement. Donc je vais parler un petit peu de ces institutions de manière indirecte tout de suite. Donc c'est évidemment très très important que ce qui est décidé au niveau européen le soit de manière un tant soit peu démocratique, puisque ça a un impact énorme. Et non seulement une grande partie des décisions prises aujourd'hui par les États sont des dérivés de ce qui est décidé au niveau européen, mais en plus ça concerne quasiment tous les domaines de la vie des citoyens aujourd'hui. Donc c'est pas seulement les traités en eux-mêmes qui sont non démocratiques, mais c'est aussi la législation européenne qui est adoptée au quotidien, donc au jour le jour, par ces différentes institutions. Alors ce qui m'influence dans cette analyse, c'est la vision de la démocratie qu'on pourrait appeler classique, la démocratie représentative, donc il n'est même pas une vision extrêmement radicale, donc une vision de la démocratie représentative avec certains grands principes de base. Eh bien, cette démocratie représentative, ces grands critères de la démocratie représentative ne sont absolument pas respectés au niveau européen. En particulier, les institutions les plus puissantes, comme la Commission européenne ou le Conseil des ministres, sont non élus et sont très peu contrôlées par les élus et les citoyens. Même le Conseil, donc le Conseil des ministres, c'est le regroupement des gouvernements en fonction des matières qui se réunissent pour prendre des décisions sur les questions monétaires, sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Eh bien, on pourrait se dire que ce sont des ministres et des gouvernements, ils sont contrôlés par leur Parlement. Le problème, c'est que quand ils agissent au niveau européen, ce contrôle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lâche, voire parfois inexistant. Et la Commission est clairement un organe qui se présente et qui devrait être dans ses statuts même apolitique. Donc la Commission n'est pas élue, même si elle est de plus en plus contrôlée par le Parlement européen, mais ça n'a rien à voir avec un contrôle qu'une assemblée devrait normalement exercer sur un exécutif. Parce qu'on peut dire que la Commission fait un petit peu office d'exécutif. Mais elle a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Par exemple, c'est la Commission qui seule peut lancer de nouvelles lois européennes, donc de nouvelles initiatives. Si par exemple on voulait décider aujourd'hui de créer des services publics européens, ou en tout cas de protéger les services publics au niveau européen, eh bien ça ne pourrait venir que de la Commission. Si la Commission ne veut pas... Et c'est, je prends cet exemple-là spécifiquement parce que c'est quelque chose qui a été demandé depuis des années par différents gouvernements, donc de faire une directive, une sorte de loi européenne sur les services publics européens, mais la Commission depuis toujours dit non, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la libéralisation des services, dont je parlerai un peu plus loin plus tard, qui est très très problématique d'un point de vue social, ça a été proposé explicitement par la Commission. Donc ce sont des pouvoirs très importants qui sont très peu contrôlés. Alors le Parlement européen, qui en théorie est l'organe le plus démocratique, puisqu'il est élu au suffrage universel, a très peu de pouvoir finalement, si on observe ce qu'une assemblée législative devrait avoir comme pouvoir. Et son pouvoir maximal, qu'on appelle le pouvoir de codécision, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, c'est en fait un pouvoir de veto. C'est un pouvoir de dire non, de stopper des propositions venant de la Commission. Et il a ce pouvoir en co-décision avec le Conseil. Et son pouvoir de contrôle de ce qui fait office d'exécutif de la Commission est extrêmement, extrêmement faible. Un autre problème, si on prend de nouveau ces grands critères de la démocratie représentative classique, c'est qu'il n'y a pas de séparation claire des pouvoirs, ni d'attribution claire des pouvoirs. Or, c'est un principe vraiment de base, de nouveau, qui est très peu radical, qui date de Montesquieu et dont tout le monde a déjà entendu parler, qui est absolument essentiel, donc une séparation claire entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et une attribution claire des pouvoirs également. Or, au niveau européen, un organe comme la Commission européenne, par exemple, cumule dans certains domaines le pouvoir législatif, donc de proposer des lois, le pouvoir exécutif d'appliquer ces lois et le pouvoir judiciaire de juger ou de poursuivre en justice des gouvernements ou des organes qui n'appliqueraient pas ces lois européennes. Donc c'est trois pouvoirs cumulés. Par ailleurs, la plupart de ces organes ont l'un ou deux de ces pouvoirs, et donc ça rend évidemment très très problématique pour les citoyens de savoir qui est responsable de quoi. Puisque ça va être très facile pour ces différents acteurs de se renvoyer la balle en disant « Ah ben non, mais on a pris cette décision en co-décision, on l'a fait ». Et d'ailleurs, les spécialistes des institutions européennes parlent souvent du triangle institutionnel, donc Commission, Conseil, Parlement, en disant que ces trois institutions sont inséparables et qu'elles travaillent toujours ensemble, en présentant cela souvent comme un progrès parce que ça pousse au compromis. Mais en fait, ça rend le processus décisionnel européen très peu visible, très peu lisible, sorry, et très peu contrôlable. Et la redevabilité, comment dire, la responsabilité des différentes institutions devant les citoyens est évidemment beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et alors, un dernier point, évidemment, qui est très important, c'est le pouvoir énorme des lobbies, et en particulier des lobbies industriels et économiques sur ces institutions, qui a pour conséquence que le système politique européen se rapproche très fort et de plus en plus du système américain dans lequel les décisions politiques sont très influencées par des think tanks ou des lobbies représentant les intérêts des industriels et des grosses entreprises. Alors il y a évidemment des lobbies qui représentent des intérêts tout à fait différents et des causes beaucoup plus défendables quand on se dit progressiste, écologiste, social, etc. Mais ces lobbies sont en général beaucoup moins puissants, disposent de beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de personnel, etc. Et il y a d'ailleurs des études qui sont faites pour suivre le travail du lobby sur une directive, par exemple, et dans certains cas, c'est vraiment frappant de voir la similitude entre ce qui était proposé par le lobby et ce qui est finalement proposé par la Commission. Donc ça, c'est évidemment un très gros problème, parce que ça veut dire que le pouvoir de l'argent est plus important que le pouvoir du vote ou de l'implication citoyenne. Et donc la conséquence, c'est qu'on a très peu de démocratie, qu'on a aussi un désintérêt de la part des citoyens européens, parce qu'à cause de cette absence de démocratie qui diminue la légitimité, mais aussi à cause de cette absence de lisibilité, de clarté, donc très peu d'intérêt des citoyens pour les enjeux européens, une faible participation dès lors aux élections européennes, vraiment très faible, 40% en général des citoyens seulement vont voter aux élections européennes, et donc le déficit de légitimité de ces institutions est clairement très très profond. Bon, ça c'est le premier gros problème dont vous avez probablement tous conscience. Le deuxième gros problème, c'est la dimension non sociale ou antisociale, on pourrait même dire, de l'intégration européenne. Parce que non sociale voudrait dire on laisse le social de côté et on se concentre sur autre chose. Antisocial veut dire que ce qui se fait au niveau européen a un impact régressif, négatif sur les institutions sociales qui existent au niveau national. Et c'est plutôt ça qui se passe. Alors de manière ici très résumée, donc l'essentiel des traités européens, des dispositions européennes sont économiques. et sont clairement influencées par une doctrine économique de type libéral. Et donc la priorité est donnée au marché, c'est-à-dire à la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Des personnes en théorie aussi, mais beaucoup moins. Ce qui engendre, donc d'un point de vue social, c'est évidemment très problématique, puisque ça engendre ce qu'on appelle une concurrence à la baisse en termes de normes sociales et fiscales, puisque les entreprises pouvant circuler facilement, pouvant investir dans les différents pays, les capitaux pouvant circuler également très facilement, cela leur permet de mettre en concurrence les territoires, les systèmes sociaux, les systèmes juridiques, et ça exerce une pression à la baisse sur ces systèmes pour qu'ils soient de moins en moins exigeants, donc en termes salariaux, sociaux, fiscaux, voire même écologiques. Alors toujours dans cette même idée, c'est clairement, l'orientation européenne est clairement assez antagoniste par rapport à la notion de service public, puisque les services font partie du marché intérieur, et comme le reste, comme les biens, comme les capitaux, doivent être libéralisés. Qu'est-ce que ça veut dire libéraliser ? Ça veut dire être mis en concurrence. Donc les services, que ce soit des services économiques ou des services d'intérêt général, du moment qu'ils impliquent une dimension de rémunération, sont considérés comme des services qui peuvent être fournis sur un marché et mis en concurrence avec d'autres entreprises fournissant ces mêmes services. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises de services publics doivent être privatisées, mais simplement, il peut subsister des entreprises de services publics, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, mais elles doivent être en concurrence avec d'autres entreprises privées ou publiques d'autres pays. Alors, évidemment, c'est très problématique, parce que ça veut dire que l'orientation devient une orientation en fonction du profit, ce qui conduit, et plus de l'intérêt général ou de critères sociaux ou environnementaux ou d'emploi, et donc ça conduit en général, et on observe ça dans les faits, à une baisse de la qualité, à de nombreux licenciements, une augmentation des prix, et c'est ce qu'on a pu observer lors de la libéralisation des différents services, télécommunications, transport, poste, énergie, et on a pu observer ces différentes conséquences à chaque fois. Alors par ailleurs, un autre problème en termes social dans cette orientation économique assez libérale, c'est la question du chômage, puisqu'il n'y a pas de véritable politique de lutte contre le chômage au niveau européen. Mais de nouveau, ce n'est pas juste une question qu'on laisse de côté, mais c'est que les orientations économiques et les politiques économiques européennes et le cadre économique contraignant au niveau européen a clairement un impact sur ce qui se fait en termes de politique d'emploi, puisque ce qui est promu, c'est en fait finalement une politique d'employabilité ou d'activation des chômeurs, et ça c'est très clairement promu au niveau européen, et c'est favorisé par le cadre économique européen, je pourrais expliquer ça plus en détail si ça vous intéresse, et donc le but n'est pas de réduire clairement le chômage en créant de nouveaux emplois, par exemple des emplois publics, ou en favorisant la création d'activités par des politiques macroéconomiques actives, de type keynésienne par exemple, ou en réduisant le temps de travail. Donc ce n'est pas du tout ça qui est préconisé et qui est possible dans ce cadre économique européen. Ce qui est préconisé et ce qui est rendu possible par ce cadre-là, c'est une activation des chômeurs, c'est-à-dire qu'on augmente leur niveau de qualification, on augmente leur employabilité sur le marché, donc ils doivent être mieux formés, mais aussi moins chers, c'est-à-dire, puisque le travailleur est vu comme un bien, comme un produit, et donc son prix, c'est-à-dire son salaire, doit baisser, et c'est ça qui permet d'activer les chômeurs, et dans les faits, ça conduit en fait à une concurrence de plus en plus entre travailleurs entre eux, entre travailleurs et chômeurs, entre chômeurs, etc. Ça, ce sont des politiques qui sont mises en œuvre au niveau national, mais qui sont clairement favorisées par le cadre économique européen et aussi par des politiques qui sont, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui se font dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, la MOC, et donc il y a vraiment tout un tas de politiques d'emploi préconisées au niveau européen, censées être de la soft law, donc du droit mou, du droit non contraignant, mais dans les faits, qui s'applique réellement parce que le cadre général est tout à fait propice à ces politiques-là. Un troisième gros problème, c'est évidemment la faiblesse de la politique environnementale européenne. Le discours officiel qu'on entend tout le temps de la part des institutions européennes et dans les médias, c'est que l'Europe est à la pointe du combat écologique, notamment face aux Américains, face au reste du monde, face à la Chine, etc. La réalité est, selon moi, beaucoup plus nuancée. À partir du moment où les orientations de base des politiques et du fonctionnement même de l'Union européenne ne permettent pas vraiment de mener une politique environnementale volontariste. Alors, tout d'abord, j'ai déjà parlé de l'impact des lobbies industriels sur le contenu des décisions, et ça a évidemment un impact très fort sur les décisions environnementales, puisque la plupart des réglementations environnementales, pas toutes, mais Un grand nombre d'entre elles vont à l'encontre des intérêts économiques, puisque souvent elles impliquent des coûts, des investissements, des régulations, des réglementations. Et donc il y a tout un lobbying qui est fait pour empêcher que la Commission ne fasse des propositions trop exigeantes en la matière ou pour réduire le degré d'exigence en la matière. Donc ça, c'est évidemment un gros problème. C'est plus lié au mode de décision. Un autre gros problème, c'est évidemment cette priorité au marché et au secteur privé qui rend assez difficile les investissements publics qui seraient nécessaires pour faire face aux grands défis écologiques que sont aujourd'hui la réduction de la consommation d'énergie, qui requerrait des investissements vraiment très importants, notamment en termes de transport, en termes d'habitat, de logement, etc. Et aussi, bien entendu, les investissements dans les énergies renouvelables, qui doivent aussi être réalisés en grande partie au niveau public, à partir du moment où ils ne sont pas forcément rentables à court terme. Et donc, le fait que l'Union européenne soit essentiellement basée sur le marché et donne une priorité au secteur privé, rend difficile ces investissements et permet, bien entendu, comme je l'expliquais tout à l'heure, permet aux entreprises de faire pression. Comment ? Mais en mettant en concurrence les États, puisque donc, il y a cette liberté de circulation des biens, des capitaux, qui donne un grand pouvoir aux entreprises de faire pression sur les différents États pour diminuer tout ce qui est contraignant pour elles. Et donc, c'est bien entendu des salaires trop élevés, des normes sociales trop élevées, des impôts trop élevés, mais aussi des normes écologiques trop élevées. Donc, tout le cadre général européen est plutôt un obstacle à une politique environnementale volontariste et exigeante. Alors, donc voilà, cette critique très résumée, très compacte, mais je ne voudrais pas passer trop de temps dessus parce que vous l'avez sûrement déjà beaucoup entendu. Quand on a fait cette critique, bon, il faut d'abord voir si on est d'accord ou pas, mais si on est d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle existe, et souvent c'est un constat qui est assez partagé dans la population, quelle opposition est-ce qu'on doit opposer à cette réalité, à cette Europe-là ? Alors, de manière très caricaturale, très idéale typique, on peut opposer deux grandes positions qu'on observe aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs. C'est le repli sur l'État-nation ou la promotion d'une autre Europe. Et ce débat se pose en particulier aujourd'hui, en particulier dans des pays comme la France, où il y a eu une forte implication d'une grande partie de la population pour rejeter la Constitution européenne au nom d'une autre Europe, et puis où finalement cette impulsion n'a pas du tout été suivie par les dirigeants politiques. Et donc il y a une certaine amertume, un certain désaveu aussi de certaines positions qui pourraient être plus européistes, on va dire. Donc, tout d'abord, l'option de l'État-nation à défendre contre toute forme d'intégration européenne. Alors, c'est une position qu'on trouve évidemment à droite, dans la droite anti... Donc, quand je dis anti-UE, ça veut dire anti-Union européenne actuelle, pour être bien clair. Donc, on trouve cette position dans la droite anti-Union européenne et aussi dans une partie de la gauche anti-Union européenne. Et il me semble que cette tendance-là s'est plutôt accrue ces dernières années dans la gauche qui est critique contre l'Union européenne actuelle. Alors le raisonnement, de nouveau de manière très simplifiée, est le suivant. C'est que, comme je l'expliquais, l'Union européenne est antidémocratique, antisociale, voire anti-écologique. Pour certains, opprime aussi les identités nationales. Et dans cette optique-là, l'idée est que l'Union européenne est intrinsèquement tout cela. Donc depuis les débuts, depuis le traité de Rome, tout ça a été contenu dans les traités. Et donc... cette réalité qu'est l'Union européenne est inéluctablement toutes ces choses négatives. La seule solution, donc, c'est se recentrer sur l'État-nation, sur ses compétences, sur sa souveraineté, et voir peut-être même sortir carrément de l'Union européenne en espérant que d'autres pays suivront. Et donc l'idée, c'est que ce soit surtout les grands pays qui fassent ce pas-là et qu'il y ait une sorte d'effet domino. Alors oui, certains après disent qu'on pourrait envisager de nouvelles formes d'intégration européenne, mais qui seraient plus sur une base intergouvernementale plutôt que supranationale. Donc qui viendraient des gouvernements eux-mêmes plutôt qu'elles ne seraient imposées d'en haut. Et certains prennent l'exemple par exemple de l'Amérique latine, où différents gouvernements de gauche essaient de construire des formes d'intégration régionale alternatives, mais où ils gardent clairement la main sur leur souveraineté. Donc dans cette position-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus d'intégration européenne, mais elle serait sous une autre forme, plus respectueuse de la souveraineté des États. Alors, clairement, moi, ma position, c'est que cette position-là n'est pas souhaitable à gauche. Alors, évidemment, je suis sûre que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ici comme ailleurs, mais c'est intéressant d'essayer d'en discuter. Parce qu'un premier point, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre une politique véritablement de gauche, de manière souveraine, il faut bien avoir conscience qu'il faudrait se retirer totalement de l'Union européenne et de quasiment toutes ses dimensions, en tout cas toutes ses dimensions économiques. Et le problème, c'est que cet aspect-là n'est pas toujours pris en compte par les positions qui défendent un certain retour à l'État-nation. Donc il y a parfois un peu de démagogie ou de simplisme quand on croit que si on retourne à certaines... Qu'on renforce certaines des compétences de l'État-nation, mais pas d'autres, on pourra mener une politique véritablement de gauche. En réalité, pour pouvoir faire ça, il faut sortir de l'euro. Pour avoir une politique macroéconomique, donc budgétaire et monétaire, totalement indépendante, il faut évidemment sortir en grande partie du marché intérieur pour pouvoir récupérer un contrôle sur les flux de capitaux, pour pouvoir taxer de manière autonome les entreprises. Il faut sortir des régulations en termes de politique d'emploi, etc. Il faut pouvoir avoir une politique commerciale autonome. Donc c'est vraiment une rupture politique et économique très radicale. Et il faut bien avoir conscience que faire ce choix-là, si on défend cette position-là de manière sincère, comme un véritable projet politique et pas juste de manière démagogique pour mobiliser les gens, que faire ce choix-là aura des conséquences politiques et aussi des conséquences économiques. Et ça reviendrait un petit peu à faire ce qui voulait être fait en 81 avec Mitterrand et puis qui finalement a mené à beaucoup de problèmes. Parce que si un tel retrait était mis en œuvre, il faut bien se rendre compte qu'il pourrait y avoir des répercussions économiques assez négatives, du type spéculation sur la monnaie, du type retrait massif de capitaux. Ça pourrait aussi mener l'État en question, mettons que la France adopte ce type de position, à se lancer dans une stratégie commerciale de repli ou agressive pour essayer de maintenir un certain niveau de richesse, donc en forçant l'ouverture de marchés à l'extérieur, en dévaluant la monnaie, etc. On a vu ça dans l'histoire se passer dans différents pays à différents moments. Et bon, et donc il y a évidemment un danger aussi de se désintéresser complètement du sort des autres citoyens européens, des autres populations européennes, puisque bon, l'idée de coopération intergouvernementale par la suite peut rester finalement quelque chose de très, très abstrait. Et que si on n'a pas les outils politiques et les outils économiques pour le faire, c'est un peu difficile. Et ce qui est très probable dans ce genre de scénario, c'est que finalement, le recentrage se fasse vraiment sur les États, les ressortissants nationaux eux-mêmes. Et donc, il me semble, mais bon, de nouveau ici, il faudrait qu'on développe, que c'est une stratégie qui est à la fois contre-productive socio-économiquement quand on veut mettre en œuvre un projet plutôt de gauche, progressiste, et qui est aussi assez contraire aux idéaux universalistes que la gauche est censée promouvoir, puisque on se recentre sur finalement des intérêts d'une seule nation, et donc on tombe plutôt dans un certain particularisme. Donc la position que je trouve plus défendable, c'est plutôt celle qui était défendue par une grande partie de la gauche qui était critique contre la Constitution européenne, et qui est toujours défendue par une partie de la gauche, même si c'est un sujet qui est de plus en plus délaissé, c'est celle d'une autre Europe, qui serait donc plus démocratique, sociale, écologique et pacifique. Et donc ici, il faut bien avoir à l'esprit, quand on parle de soutenir une forme d'intégration européenne, on ne parle pas de l'intégration européenne actuelle. C'est pour ça que je veux bien clairement faire la distinction entre la critique contre l'Union européenne actuelle, donc une position anti-UE, mais une position pro-européenne dans d'autres domaines. Donc on peut être contre l'Union européenne actuelle, l'Union européenne existante, mais formuler cette opposition au nom d'une autre Europe et se battre pour cette autre Europe-là. Alors, il me semble que cette position est plus réaliste et qu'elle est possible. Pourquoi plus réaliste ? À partir du moment où il y a une intégration économique, et politique d'ailleurs, mais économique notamment, très très forte au niveau européen, beaucoup plus qu'au niveau mondial, parce qu'on parle de globalisation, etc., mais l'intégration économique, donc c'est-à-dire les flux commerciaux, les flux de capitaux, sont beaucoup plus importants au niveau européen qu'entre pays européens et le reste du monde. Donc les principaux partenaires commerciaux de la France sont l'Allemagne et d'autres pays européens, et vice-versa. Et donc l'intégration économique est très forte. Et donc, et puis bon, pour la zone euro, il y a une monnaie unique déjà, il y a une banque centrale européenne, il y a tout un tas de régulations qui existent. Et faire revenir tous les outils économiques nécessaires pour mettre en place une politique de gauche au niveau national serait probablement beaucoup plus coûteux économiquement et beaucoup plus difficile politiquement que faire passer davantage d'outils sociaux et davantage d'économiques ou réorienter l'Union européenne actuelle. Donc ça, c'est pour moi, c'est l'argument plutôt réaliste des conditions existantes qu'on ne peut pas éluder quand on se dit de gauche. Même si beaucoup ont l'impression qu'être pro-européen, défendre une autre Europe, c'est quelque chose d'idéaliste, il me semble que c'est au contraire en fait quelque chose de plus réaliste. Et en plus, oui, l'idée, c'est pas parce que les institutions sont mauvaises ici et maintenant qu'elles le seront toujours. Et l'histoire montre bien que certaines institutions qui, au départ, étaient clairement orientées de manière négative, qui allaient dans un sens contraire à l'intérêt de la majorité des citoyens, qu'on prenne l'État, par exemple, au début, dans la plupart des pays européens, l'État, clairement, défendait les intérêts d'une petite minorité. Eh bien, sous l'influence de luttes sociales et politiques, cette institution, qui a été l'État, et puis les débuts de la démocratie représentative, ont pu être de plus en plus utilisés comme des outils pour servir les intérêts des citoyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils correspondent maintenant complètement aux intérêts des citoyens européens, mais ça montre la malléabilité des institutions humaines, à condition, bien entendu, qu'il y ait les mobilisations sociales et les luttes politiques correspondantes. Alors, par ailleurs, ça c'est l'argument peut-être plus idéaliste, c'est que quand on est de gauche ou progressiste, ça me semble tout à fait souhaitable, désirable, nécessaire même, de défendre une intégration, une forme d'intégration européenne. Parce qu'on ne peut pas se contenter de défendre les intérêts des citoyens de son propre pays, il faut aussi défendre les intérêts et les besoins des citoyens d'autres pays, idéalement du monde entier. Si on se dit de gauche, on se dit progressiste, mais il faut être réaliste aussi. Et donc, le plus réaliste, c'est probablement au niveau régional, dans notre cas, au niveau européen. Et alors, par ailleurs, oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour être vraiment de gauche, des politiques, aujourd'hui, devraient être menées au niveau européen. C'est particulièrement important dans le cadre de la crise, aujourd'hui, parce que si on prend simplement l'exemple du financement de toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour sauver le système économique. Bon, on peut critiquer ces mesures, mais bon, clairement, elles ont augmenté le déficit public dans la plupart des pays. Et à un moment donné, non seulement pour financer ce déficit public à long terme, mais aussi pour faire face aux conséquences sociales de cette crise économique, ce qui n'est pas encore fait beaucoup dans la plupart des pays, il faut penser à la taxation, et c'est fait dans différents pays européens. Les niveaux de taxation commencent à augmenter. Mais si on veut faire ça dans une optique progressiste, on ne peut pas augmenter la fiscalité sur n'importe qui, on ne peut pas augmenter juste la TVA, l'impôt sur le revenu des bas revenus et des revenus moyens. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter les impôts sur les revenus élevés, sur les revenus du capital, sur les revenus boursiers, sur les profits. Et de nouveau, faire cela dans un seul pays, dans un cadre de libre circulation des capitaux et des entreprises, sans en plus avoir une politique macroéconomique qui permette de compenser certains des problèmes que ça peut apporter, est évidemment très contre-productif et risque de mener à une fuite des capitaux. Alors ça, évidemment, ça, beaucoup de gens, quand on leur dit ça, surtout s'ils se disent de gauche, ça leur fait peur, parce qu'ils disent « mais oui, mais ça, c'est un argument utilisé par la droite ». Mais il faut, selon moi, il faut tout de même prendre en compte, de nouveau, si on veut élaborer un projet politique réel et pas juste essayer de mobiliser les gens, il faut prendre en compte les réalités objectives. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui a fait historiquement que les mouvements sociaux et les mouvements de travailleurs, historiquement, ont fini par se tourner aussi vers l'État, vers l'État-nation, parce que ça leur paraissait être le cadre le plus propice pour mettre en œuvre les politiques sociales et économiques de solidarité et progressistes qu'ils défendaient. Et alors, bien entendu, oui, si on veut aussi augmenter les salaires, défendre la sécurité sociale, bon, pas seulement empêcher les régressions, mais aller plus loin, l'étendre même dans certains domaines. Donc au-delà de la fiscalité, c'est la même logique. Faire ça uniquement au niveau national, si on fait ça uniquement au niveau national, on s'expose à de fortes conséquences économiques négatives, à moins de nouveau de se couper complètement du reste de l'Europe. Et c'est beaucoup plus réaliste, productif et aussi progressiste, à mon avis, de préconiser une harmonisation vers le haut de ces différentes normes sociales salariale et fiscale.
Et tu trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot. Tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien.
et jamais tôt. Quelle est cette autre Europe qu'il faut défendre? Ben, c'est un petit peu le contraire de ce qui est critiqué. C'est évidemment une Europe démocratique. Donc ça implique que le droit primaire, c'est-à-dire le droit, les dispositions fondamentales sur lesquelles toutes les décisions se basent, et qui sont donc comprises dans les traités, soient élaborées de manière beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire en impliquant les citoyens et les parlements. Bon, là, il y a différentes propositions qui sont faites par un tas de mouvements sociaux, comme par exemple l'élection d'une assemblée. Bon, on pourrait imaginer l'élection soit d'une assemblée ad hoc, soit lors des prochaines élections européennes, d'une assemblée qui serait chargée de rédiger un nouveau traité fondamental, qu'on n'appellerait pas forcément constitution, mais qui serait ensuite soumis à référendum. Et pour que cette élaboration de ce traité soit véritablement démocratique, il faudrait qu'elle soit précédée par un débat, un long débat, avec suffisamment d'informations, un accès suffisant aux différents mouvements, aux différents partis, aux médias, aux ressources, etc., pour pouvoir faire entendre leurs idées, pour qu'il y ait une véritable confrontation de projets, et qu'après, eh bien, on ait finalement un projet qui soit un projet majoritaire. Et ça, là, on pourrait dire alors que ce nouveau traité serait déjà un petit peu plus démocratique que ce qui existe aujourd'hui, qui sort de cénacles complètement opaques et intergouvernementaux. Bon, ça, c'est pour le nouveau traité. Et puis alors après, dans le fonctionnement quotidien des institutions européennes, il faudrait que le Parlement européen ait au moins un pouvoir de proposer de nouvelles lois, qu'il ait un pouvoir de contrôle des différentes institutions européennes qui n'ont pas de véritable légitimité démocratique comme la Commission et le Conseil, que les citoyens européens puissent aussi proposer de nouvelles lois, par exemple sous forme de référendum d'initiative. Et puis alors il faut une attribution, une séparation claire des pouvoirs pour pouvoir dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et puis pour qu'il y ait un certain équilibre des pouvoirs, et alors évidemment réduire et contrôler bien davantage l'influence des lobbies. Donc ça, c'est de nouveau manière très 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 résumée. Au niveau social, cette autre Europe qui est promue par différents mouvements implique des normes sociales européennes élevées, par exemple un salaire minimum, une réduction du temps de travail, certains droits de sécurité sociale qui seraient donc harmonisés au niveau européen vers le haut avec, ça c'est absolument indispensable, une clause de non-régression. Donc ça veut dire l'idée que ces normes sociales européennes ne peuvent jamais aller en deçà de ce qui existe déjà au niveau européen, ce qui est tout à fait le contraire aujourd'hui, parce que le social qui est décidé au niveau européen, même s'il est minime, il est souvent régressif par rapport à ce qui existe au niveau national. La directive sur le temps de travail était vraiment exemplaire à ce niveau-là, puisque finalement elle n'est pas passée, mais l'idée c'était qu'elle permette de faire travailler les gens, je crois que c'était combien, 48, non, plus de 48 heures par semaine, ce qui est évidemment bien, c'était, non, 65. Je ne sais plus, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, mais ce qui est bien supérieur à ce qui est autorisé dans la plupart des pays européens. Donc ça, évidemment, ça devrait être tout à fait proscrit. Et alors, bien entendu, une harmonisation fiscale sur les entreprises et les capitaux pour empêcher le dumping et pour permettre donc un financement de politiques d'investissement et de services publics. Alors, au niveau des services publics, il faut qu'ils soient sortis des règles du marché intérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être gérés et financés par des entreprises publiques et qu'ils ne soient pas mis en concurrence avec le privé. Alors, il faut des politiques économiques européennes qui luttent véritablement contre le chômage, donc ça implique un pouvoir macroéconomique, politique budgétaire, monétaire, mais aussi de réduction du temps de travail. Et alors, une politique environnementale ambitieuse qui passe par des réglementations, mais aussi par des investissements. Et une politique étrangère qui soit davantage pacifique. Alors bon, ça c'est évidemment très idéal, très général, mais c'est pour vous montrer, pour vous rappeler, parce que vous avez sûrement entendu tout ça au moment des débats sur l'Europe, les grands traits d'une autre Europe, qui serait donc une Europe qui serait davantage conforme aux attentes et aux intérêts des citoyens. Cette autre Europe n'est pas impossible. Le problème c'est évidemment qu'il faut la promouvoir, mais elle serait véritablement dans l'intérêt de la plupart des citoyens européens. Alors, parlons un petit peu maintenant de la question de l'identité, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a envie de parler d'identité plutôt que de politique. Et moi, j'avoue que dans tout ce que j'écris, que ce soit plus au niveau universitaire ou plus au niveau vulgarisation, politique, sociale, etc., mon approche générale, c'est d'être assez sceptique par rapport à la identity politics, donc aux politiques identitaires en général, parce que je trouve qu'elles conduisent souvent à faire dévier le débat vers des thèmes qui sont peut-être moins essentiels. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Et donc, sur l'Europe, Là, j'ai essayé de défendre une vision pro-européenne, on va dire. Et donc, la plupart des gens auraient l'impression que cette vision pro-européenne doit forcément aller de pair avec la défense d'une identité européenne. On est tous européens, et c'est bien, et c'est beau, et on est différents des Américains, en gros. Et ben, c'est pas vraiment la vision que je défends. Parce que ce que je voudrais défendre ici, c'est que le patriotisme, selon moi, est quelque chose de dangereux. Mais le patriotisme n'est pas seulement le patriotisme national. Parce qu'on trouve aujourd'hui, parmi les tendances pro-européennes, que ce soit à gauche comme à droite, finalement une sorte de reproduction du patriotisme, mais au niveau européen. Et on trouve ça chez des intellectuels en particulier, mais aussi dans des discours politiques, et donc, ou dans des positions individuelles, vraiment des sortes de positions euro-patriotiques. Et je pense que le patriotisme, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, comporte pas mal de dangers. C'est des critiques anciennes qui ont été formulées par plein de tendances de la gauche, mais qui, à mon avis, valent vraiment la peine d'être rappelées. Et donc, on trouve cette défense du patriotisme, évidemment, dans ces positions pro-européennes, mais aussi dans ceux qui défendent un retour à une souveraineté maximale de l'État-nation. Ça, c'est assez évident, mais la plupart du temps, ça va de pair avec une défense de l'identité aussi de l'État-nation, et donc d'un certain patriotisme. Alors, la position que je défends ici, c'est une position qu'on pourrait qualifier de post-nationale ou d'internationaliste ou de cosmopolitique, même si le cosmopolitisme est un terme très problématique parce qu'il est souvent utilisé par des gens de droite, que ce soit des intellectuels ou des hommes politiques. Mais si on ne garde que le cœur identitaire de ces positions, ce sont des positions très progressistes et très intéressantes. Et si on les pousse jusqu'au bout, l'idée est que les identités collectives ne sont pas problématiques, existent, existeront toujours, sont un besoin pour les groupes, pour les individus, mais que ce ne sont pas elles qui doivent fonder la légitimité politique, la légitimité des institutions politiques. Donc ça ne doit pas être la base du soutien populaire aux institutions politiques. Pourquoi ce n'est pas souhaitable? Et donc ici, je parle de patriotisme, mais on pourrait parler plus largement d'identité collective. Pourquoi ce n'est pas souhaitable? Ici, je développe deux grands arguments. Tout d'abord, quand on parle de patriotisme ou d'europatriotisme, enfin d'identité nationale ou d'identité européenne, on construit une homogénéité de la nation ou de l'Europe. Ici, je parle de la nation parce que cette critique est traditionnellement adressée au patriotisme, qui occulte des conflits, des contradictions qui sont plus fondamentales et souvent sous-jacentes et qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus voir. Les conflits de redistribution, évidemment, les conflits de classe, puisque quand on est dans cette optique patriotique ou repatriotique, l'idée, c'est qu'on fait tous partie de la même entité culturelle. Riches, pauvres, on est tous français. Riches, pauvres, on est tous européens. Donc, conflits de redistribution sont occultés. Les inégalités de genre, les discriminations sur base ethnique, culturelle ou religieuse, différents rapports de force entre dominants et dominés risquent d'être occultés, ou voilés ou atténués sous ce discours d'homogénéité nationale ou euronationale. Et donc, ça réduit le potentiel de protestation, le potentiel de contestation, puisque ça rend plus difficile de construire discursivement une position de dominé contre des groupes dominants, puisqu'ils font partie de cette même entité culturelle. On fait tous partie de la même communauté dans cette optique-là. Et donc, ça rend plus difficile aussi pour les groupes dominés de construire des liens entre différents groupes dominés contre groupes dominants. Donc, en gros, par exemple, quand on parle des syndicats, si l'identité européenne devenait aussi forte que l'identité nationale ne l'est encore ou ne l'a été dans le passé, ce serait extrêmement difficile, ça l'est déjà maintenant mais pour d'autres raisons, pour des travailleurs ou des syndicats français de s'unir à des travailleurs du syndicat allemand ou surtout de cultures plus éloignées au départ, polonaises, roumaines, etc. Là ce serait plutôt si l'identité nationale française, et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais si cette identité européenne prenait le pas sur l'identité nationale ou venait la compléter, et c'est déjà un petit peu le cas maintenant, ça rendrait plus difficile, et c'est déjà beaucoup plus difficile, de faire en sorte que les citoyens européens s'unissent avec des citoyens ou des travailleurs d'autres pays du monde, ou en tout cas, essaient de construire des solidarités à un niveau mondial. Mais bon, là, on pense déjà très loin, mais rien qu'au niveau européen, l'exemple que je prenais tout à l'heure, et ce qui se passe tous les jours aujourd'hui, et c'est ce qui rend la mobilisation sociale très difficile aussi, au-delà des obstacles de langue, et des obstacles institutionnels, et du fait qu'il n'y ait pas assez d'organisation au niveau européen, c'est évident que le fait que les cadres mentaux et politiques soient encore très nationaux rend les solidarités et les mobilisations de travailleurs ou de citoyens de différents pays, c'est des mobilisations communes entre ces travailleurs, assez difficiles, assez ardues. Un deuxième problème, c'est que ça a été bien montré par la psychologie collective, par la psychologie sociale, pardon, par un tas d'études, c'est que souvent, quand on valorise une communauté, quelle qu'elle soit, ça va souvent de pair avec la possibilité de dévaloriser d'autres communautés. Donc il y a la construction d'un « nous » qui se fait contre un « eux ». Et le danger, c'est que dans les deux cas, on perçoit les deux communautés, le « nous » comme le « eux », de façon assez homogène, et dans une sorte d'opposition supérieure-inférieure. Et donc ça ne mène pas forcément, mais ça permet et ça facilite des pratiques de stigmatisation, création de boucs émissaires, de discrimination, d'oppression, etc. Et on voit ça tous les jours dans tous les pays, vis-à-vis des immigrés, des sans-papiers. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces groupes de personnes sont stigmatisés, opprimés ou exclus, mais le discours national et de construction d'une identité homogène contre d'autres identités facilite évidemment ça. Même si, quand on est dans une optique progressiste, c'est pas ça qu'on recherche, on crée un cadre qui permet ce type de dérive. Alors ensuite, un deuxième argument, qui est à mon avis encore plus fort, c'est que le patriotisme ou la défense d'une identité collective pour soutenir des institutions politiques n'est selon moi pas nécessaire. Ça va à l'encontre vraiment de beaucoup d'idées reçues, puisque beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas faire fonctionner une communauté politique, en particulier si elle doit être sociale et démocratique, si on n'a pas un sentiment d'appartenance commun, une identité commune. Or, moi je pense que la légitimité politique peut tout à fait, en théorie, se fonder. Il y a quelques exemples dans l'histoire, mais c'est difficile à trouver parce que ça a rarement été le cas, pourrait tout à fait se fonder sur le fait que les institutions politiques mettent en œuvre des mesures qui sont conformes aux attentes et aux intérêts des citoyens, tout simplement. Et je pense que très souvent, l'identité est utilisée comme un palliatif, comme un substitut à justement cette légitimité qui serait plus une légitimité par les outputs, par les résultats, et par le fait que ces décisions sont issues de la souveraineté populaire. Donc souvent, l'identité est utilisée comme un substitut. Donc comme les dirigeants politiques ne parviennent pas à satisfaire véritablement les besoins, les attentes, les intérêts des citoyens, eh bien, on utilise alors souvent l'identité pour créer une... Parce que c'est évident qu'aucune institution politique, aucun État ou aucune entité politique au sens large ne peut subsister sur le long terme sans une certaine légitimité. Même une dictature doit trouver une certaine légitimité. Et nous, on n'est pas dans des dictatures, donc il faut une certaine légitimité, c'est évident. Mais si on n'a pas cette légitimité basée sur les résultats, sur le contenu des politiques qui seraient conformes aux attentes des citoyens, eh bien, l'identité peut être un recours facile. Mais dans un projet progressiste, on peut tout à fait imaginer que la légitimité soit basée sur autre chose. Sur le fait donc que les institutions politiques feraient avancer les droits humains définis dans un sens large, parce que c'est comme ça qu'on peut définir, à mon avis, les principales attentes des citoyens. Donc quand je parle de droits humains, je ne parle pas dans le sens juste amnestie, droit civil, le droit de ne pas être torturé, etc., mais des droits humains dans le sens des déclarations, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de toutes les déclarations de l'ONU les plus importants, donc les droits civils bien entendu, mais aussi des droits politiques, d'être élu, de voter, et aussi toutes les libertés politiques qui vont de pair, des droits sociaux très étendus, avec des institutions sociales fortes, et certains droits culturels, du moment qu'ils respectent les droits des autres personnes. Donc ça, c'est une question plus de, oui, est-ce que vraiment on a besoin d'une identité collective, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, pour fonder la légitimité des institutions? Je pense que ce n'est pas le cas, et donc je pense que ce n'est pas nécessaire non plus au niveau européen. Alors oui, voilà, ici je prends quelques exemples. Le soutien à l'intégration européenne, pourrait très bien exister si cette intégration européenne faisait donc avancer ces différents droits dont je viens de parler. Plutôt que de développer une identité européenne, on devrait plutôt développer des politiques qui seraient conformes aux besoins, aux attentes des citoyens. Au niveau plus national comme au niveau européen, la question de l'intégration des personnes d'origine immigrée est aussi intéressante, parce que dans les différents camps de la polémique, c'est pas vraiment tout à fait le débat ici, mais ça relève de la question de l'identité, donc que ce soit du côté de ceux qui défendent l'importance de l'identité culturelle ou religieuse, par exemple dans le camp multiculturaliste ou dans certaines associations immigrées ou représentant les intérêts des personnes d'origine étrangère, il y a cette idée qu'il faut renforcer les identités culturelles et religieuses et que c'est ça qui va permettre l'intégration alors de ces personnes dans la communauté nationale. De l'autre côté de la polémique, on a l'idée que non, il faut renforcer la communauté de citoyens au niveau national, et que c'est ça qui va permettre l'intégration de tous dans une même communauté. Mais donc on a tout le temps cette vision qu'on peut qualifier au niveau philosophique de communautarienne, donc l'idée qu'il faut forcément une communauté culturelle pour soutenir soit la mobilisation politique, soit la légitimité politique. Mais on peut défendre que c'est plutôt que pour réaliser une véritable intégration des personnes d'origine immigrée, ce qu'il faut faire, c'est appliquer de manière pleine et entière les droits de ces personnes qui normalement, si on se base sur les grands textes, devraient être appliqués. Donc le droit individuel à l'expression culturelle, mais aussi et surtout les droits civils, politiques et sociaux. Et donc, bon, quand je dis ça, je ne sous-entends pas que tous ces droits sont appliqués de manière pleine et entière pour les ressortissants nationaux. Bien entendu, je n'ai pas du tout une vision angélique. Et si on devait appliquer ces droits de manière exigeante aux citoyens nationaux, ça impliquerait des changements fondamentaux, notamment au niveau européen. Mais donc, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que plutôt que d'aborder cette question de l'intégration des personnes d'origine immigrée sous le prisme identitaire, on pourrait l'aborder davantage dans cette perspective de répondre aux véritables attentes des citoyens, qu'ils soient donc d'origine française ou d'origine immigrée. C'est juste un exemple qui sort un peu de la question européenne, mais qui n'est pas tout à fait éloigné. En quelques mots, quelle stratégie de changement ? Parce que c'est toujours la question qu'on a quand on présente ce genre de position assez forte et assez exigeante, comment on met ça en œuvre? Alors évidemment, personne n'a la solution, mais moi je voudrais vous présenter juste en quelques mots très rapidement ma position, mais c'est justement l'une des questions qui m'intéresse le plus pour le moment, parce que je pense que c'est vraiment la question qui pose problème à gauche aujourd'hui et pour les progressistes, c'est la question stratégique. Alors, donc, si on se concentre sur la question européenne, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette autre Europe promue? Quelques points, juste, et puis ça peut ouvrir le débat éventuellement. C'est qu'il y a évidemment un gros problème. J'ai parlé des conditions objectives qui font qu'on pourrait avoir plus d'Europe, une Europe plus sociale, plus démocratique, etc. Et il y a des conditions objectives, notamment l'intégration économique, qui sont là. Mais ces conditions objectives ne vont pas de pair avec une intégration subjective, comme on l'appelle parfois dans la sociologie historique. Ça veut dire une intégration des mentalités, donc une européanisation des mentalités, mais aussi une européanisation des luttes sociales et des luttes politiques. Ça, c'est évident. Il suffit de prendre l'exemple des syndicats, que je connais un peu, mais c'est la même chose au niveau des partis politiques de toute tendance. La mobilisation, qu'elle soit sociale ou politique, continue à se faire essentiellement dans un cadre national. Et la politisation, la mobilisation et les mentalités en général continuent à évoluer, et surtout dans un cadre national. Alors là, bien entendu, il y a le problème de la langue, mais pas uniquement, c'est institutionnel, c'est très compliqué. Et donc, bon, là, évidemment, on peut en tirer une conclusion plus générale, c'est que les conditions objectives ne suffisent pas, il n'y a aucun déterminisme. Les changements sociaux, ce n'est pas parce que les conditions sont là et devraient nous indiquer la voie à suivre qu'il va y avoir forcément que cette évolution va se faire. Et donc ça montre bien qu'il faut que ce sont les acteurs eux-mêmes, les êtres humains eux-mêmes, nous-mêmes, qui faisons notre propre histoire. Et donc ça dépend totalement des mobilisations, ça dépend totalement du fait que les acteurs sociaux se mobilisent ou pas pour faire advenir cette autre Europe. Et alors, si on veut, donc de l'extérieur, en tant qu'observateur extérieur, si on veut faire advenir cette autre Europe, il est évident que ça ne suffit pas ni de se mobiliser à l'extérieur des institutions existantes de manière protestataire, ni à l'intérieur de ces institutions existantes. Ça ne suffit pas non plus de se mobiliser au national, bien au niveau du national, bien entendu, mais ça ne suffit pas non plus de se mobiliser uniquement au niveau européen, à partir du moment où la politique et le social continuent à se faire tellement au niveau national. Donc il faut arriver à combiner à la fois des mobilisations extra-institutionnelles, par exemple à travers les syndicats, à travers des associations, etc., et des mobilisations institutionnelles, ne pas mépriser, selon moi, l'action, même tout en étant très critique et très sceptique, mais l'action dans des institutions telles que les parlements et les gouvernements. Et il faut aussi faire cela à la fois au niveau national et au niveau européen. Et les quelques victoires, entre guillemets, qu'il y a pu avoir au niveau européen, mais qui étaient souvent des victoires défensives, malheureusement, ont en général combiné ces différentes formes de mobilisation. Si je prends l'exemple de la directive service, par exemple, qui était vraiment une énorme régression sociale, bon, le problème, c'est qu'elle est passée après sous une forme plus soft, mais qui est tout de même très problématique, et qu'elle n'a pas été suivie par quelque chose de positif. Bon, la directive service, dite directive Bolkestein à l'époque, parce que proposée par le commissaire Bolkestein, visait à libéraliser tous les services, et donc aussi les services publics, et c'est la logique qui est inscrite dans les traités, mais là, le but, c'était d'aller vraiment beaucoup plus vite, et donc ça aurait pu toucher l'éducation, la santé, etc. Bon, c'est une logique qu'on voit à l'œuvre, mais la directive aurait vraiment radicalisé les choses. Et c'est intéressant de voir comment cette directive a fini par être bloquée. C'est parce que le Parlement européen a utilisé les faibles pouvoir qu'il a, dont son pouvoir maximal qui est le pouvoir de codécision, il a dit non, hein, ce qui fait très peu en général, Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce qu'il a été poussé par des mobilisations de la part des syndicats, à la fois de la Confédération européenne des syndicats, mais aussi des syndicats nationaux, donc des différents parlementaires européens dans leur circonscription nationale et au niveau européen, ont subi beaucoup de pression. Il y a eu des manifestations, il y a eu un tas. Et les partis ont relayé également des associations, des intellectuels, etc. Bon, là, évidemment, c'est une petite victoire parce que c'est juste bloquer quelque chose de négatif. Mais je pense que sur le plan plus positif, donc il serait plus de propositions, c'est évidemment ce type de mobilisation qu'il faut utiliser, donc avec différentes facettes. Mais personnellement, je trouve que, enfin, je ne suis pas très optimiste, parce que c'est évident que si, selon moi, sur le papier, les conditions objectives nécessiteraient davantage d'intégration européenne, mais de manière totalement différente de celle qui existe aujourd'hui, notamment la gestion, une gestion progressiste de la crise économique et de la crise sociale, et une utilisation de la crise pour refonder le système économique, etc. Donc si... Voilà, oui, les conditions objectives devraient pousser vers une évolution de ce type-là. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe, c'est vraiment pas du tout ce qu'on observe au niveau politique ou social, à la fois en haut, hein, donc, puisque les gouvernements adoptent plutôt une politique de retrait national, mais aussi dans les populations elles-mêmes, et alors aussi dans les discours, dans l'utilisation des thèmes nationaux, nationalistes, etc. Donc je ne suis pas du tout optimiste là-dessus, et c'est sûr que les moments de crise, historiquement, conduisent toujours à des changements, et parfois à des changements très radicaux, mais le radicalisme n'est pas toujours un radicalisme progressiste et de gauche. Et là, je ne sais pas si vous connaissez un auteur, Karl Polanyi, mais j'ai l'impression que son cadre de pensée, donc il a écrit son grand ouvrage, La Grande Transformation, en 1944, donc c'est très vieux, mais s'appliquerait assez bien aujourd'hui, puisqu'il écrit ça après la crise des années 30, et il explique que cette crise économique très très profonde, qui était probablement plus profonde encore que celle qu'on vit aujourd'hui, mais a conduit à des changements phénoménaux, parce que cette crise était le fruit d'un désencastrement, comme il l'appelait, disembedding, désencastrement de l'économie par rapport au social, au politique, etc. Et donc ça a construit un réencastrement du marché, des relations économiques dans les institutions sociales et politiques, mais ce qui a gagné comme réencastrement et dans le discours politique, au départ, c'est le fascisme, donc c'est du radicalisme et du radicalisme de droite. On est dans un contexte historique complètement différent, il n'y a pas de mouvement fasciste véritablement puissant, mais il y a des mouvements d'extrême droite, des mouvements xénophobes, de différentes tendances, et voilà. Et donc moi j'avoue que voilà, ça c'est ce que j'essaie de défendre sur le plan intellectuel, mais d'un point de vue social et politique, j'ai du mal à voir les relais et les mouvements qui adoptent ce type de position-là de manière sérieuse et convaincue. Voilà. Mais donc ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous pensez par rapport à la question européenne. Est-ce que vous êtes plutôt complètement détaché, comme j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens, et vous pensez vraiment plutôt qu'il faut faire des choses au niveau national, ou est-ce que vous pensez que ça vaut quand même la peine d'essayer d'investir un peu au niveau européen? Donc voilà, donc j'espère que vous aurez beaucoup de commentaires sur ce point-là.
Danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.